Bonsoir Guillaume Musso.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Je suis très contente de vous rencontrer, on ne s'est jamais rencontrés vous et moi, c'est pas faute de baigner tous les deux dans l'univers du livre. Et nous sommes avec vous pour parler donc de ce livre, Le Crime du Paradis, qui est édité aux éditions Calman Levy. Et ma première question est la suivante, quel est votre rapport à votre part de féminité?
Écoutez, elle est... Je me pose pas souvent la question, mais elle est... Je suis très ouvert à ça, j'ai toujours mis en avant dans mes livres des personnages de femmes assez forts, mais sans préméditation aucune. Donc, je sais qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de lectrices dans mon public. C'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir beaucoup de lectrices qui achètent les romans, mais entre acheter et lire, c'est-à-dire que souvent un roman en fait est lu par 3-4 personnes, donc en fait les gens qui achètent font aussi lire à leur mari, leurs enfants, leurs compagnes, donc leurs compagnons, donc les romans circulent.
Parce que dans ce livre, à nouveau, comme vous le dites, il y a des personnages féminins que je trouve assez puissants. Alors que nous suivons le livre plutôt à travers le prisme d'un homme, hein, d'ailleurs, c'est assez masculin aussi comme livre, mais quand même, vous avez une attention particulière dans vos portraits pour le féminin, toutes catégories confondues, de la force de frappe, de la capacité à rebondir, des blessures, et ce n'est pas la première fois. Et donc vous avez quand même, je voudrais savoir, une capacité à peindre des portraits féminins particuliers, et je voudrais savoir comment.
Ça se fait vraiment, je vous ai dit, sans préméditation aucune. Alors, comment se fait ce processus de création-là? À la base, il n'y a qu'une règle que je suis, parce que souvent, on me demande, mais alors, est-ce qu'il y a des règles pour écrire un roman? Moi, la seule règle que je suis depuis que j'écris des livres, depuis 20 ans, c'est écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Ça, c'est vraiment la ligne que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai une conception en fait de la littérature, à la fois quand je suis lecteur, quand je suis romancier, qui est celle du divertissement au sens noble. Le divertissement, étymologiquement, le divertir, ça vient d'un mot qui veut dire en fait faire tourner à l'extérieur de soi. Donc le divertissement, c'est ce qui vous sort de soi, de vous. Ce qui vous arrache à votre vie, qui vous arrache à votre vie. Pourquoi? Et là, on revient à Pascal, qui est finalement un roi sans divertissement, est un homme plein de misère. C'est-à-dire que le divertissement, c'est ce qui va nous faire oublier notre condition humaine, ce qui va nous faire oublier le tragique de notre condition humaine, à savoir qu'à la fin, on meurt, et ce qui va donc pendant un moment nous donner de la joie, nous donner du rêve. Donc, à l'origine de chaque roman, il y a ça. Il y a essayer de se déconnecter de sa vie pour être complètement dépaysé. Alors là, on a à la fois dans ce roman-là un dépaysement qui est le dépaysement géographique. Par contrainte, j'habite à Paris, qui est une ville que je n'aime pas, dans laquelle je me sens pas forcément bien. Et donc, dans mes romans, il y a cette envie de quitter Paris. Donc là, cette envie de quitter Paris pour la Côte d'Azur. Et au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, il y a 2 ans, il y avait un besoin de fuir l'époque, de fuir le côté noir de l'actualité, le côté un petit peu comme ça... boucher de l'avenir, et donc de créer un décalage temporel en écrivant pour la première fois un roman avec beaucoup de guillemets historiques et qui se passe en 1928, non pas que ce soit mieux avant, parce que les gens avaient leurs problèmes, ils étaient lourds aussi, mais en tout cas ça me divertissait moi-même par rapport à l'époque contemporaine.
D'accord, mais ça, vous l'avez déjà dit. Alors, vos personnages, ça veut dire que vous aimeriez les rencontrer?
Certains, oui, certains pas. En tout cas, il y a tous les matins, j'ouvre mon ordinateur en me disant, voilà, qu'est-ce que mes personnages me réservent aujourd'hui? Je sais que c'est un point qui est... J'ai écouté ce que vous avez dit l'autre fois avec Pierre Lemaitre, et j'en ai parlé avec lui, de cette latitude que le romancier laisse ou pas à ses personnages. Pierre lui dit, moi je suis avec mes personnages comme un tyran, c'est moi le patron et mes personnages font ce que je leur dis de faire. C'est une vision, je pense que en fait il exagère un peu en disant ça et que pour le connaître, c'est une vision qui est un petit peu moins dure et rigide. Moi je suis plutôt de l'école qui dit, bon ben voilà, essayons de voir ce que les personnages peuvent nous apporter. Une fois que le roman est lancé, vous avez des personnages qui, au départ, vous pensez que ça va être des super personnages, et finalement, ils se révèlent un petit peu décevants, et vous en avez d'autres qui, au départ, ne sont là un peu que pour faire les porteurs d'eau, comme on dirait au foot, ou les passe-plats, et qui, finalement, se révèlent des personnages très forts. Par exemple, là, le cas dans ce roman du jeune Charlie, qui, au départ, avait une fonction... uniquement en gros d'être l'adjoint de l'enquêteur et qui, à l'écriture, au fur et à mesure, s'est révélé avoir beaucoup plus de profondeur et développer avec l'enquêteur une relation un peu filiale où vous avez les deux personnages, l'un protège l'autre. Et donc voilà, donc se dire oui, pour un roman comme ça, forcément, vous avez un plan. Vous avez une structure qui est assez forte, mais faire en sorte qu'elle soit pas trop corsetée pour que vous puissiez être ouvert à ce que l'écriture peut vous apporter lorsque vous rédigez votre histoire.
Charlie, c'est un personnage très intéressant. Je parlais de portrait tout à l'heure. Dans ce livre, grâce à ce personnage, vous parlez de déterminisme social et donc de la façon dont on peut avoir une deuxième chance, finalement. Oui. Ça vous permet aussi de mettre en scène le personnage un peu clé de ce livre qui porte le nom de votre arrière-grand-père. Oui. Il est question de transmission. C'est un sujet qui vous est cher aussi.
Oui, en fait, ce personnage de Joseph, donc, qui est mon arrière-grand-père, en fait, c'est un absent très présent dans ma famille. Il est mort en 1915 et c'est cette génération lui il est né en 1883, qui a fait 3 ans de service militaire parce qu'il avait 20 ans et qui ensuite a été rappelé pour 4 ans de guerre. Et donc cette génération sacrifiée. Et qu'est-ce que c'est qui m'a fait me tourner vers ça? C'est une relation que j'ai avec mes enfants, et souvent lorsqu'on parle, voilà, mes enfants sont super, mais si vous leur demandez de vider la vaisselle, ok, ils vont le faire parce qu'ils sont gentils, mais ils vont râler, enfin ça va, ils vont avoir l'impression que c'est qu'on leur demande effectivement quelque chose d'un peu lourd. Et à chaque fois je leur dis, mais moi, quand mon père construisait des murs en pierre sèche le samedi et le dimanche, et qui me demandait de venir l'aider, c'est vrai que je râlais aussi. Et lui-même me disait, mais moi, quand je travaillais avec mon père sur... quand je peignais, quand je montais des serres en plein soleil pendant 12 heures, je me suis dit, mais finalement, à chaque génération, enfin, si vous remontez comme ça, finalement, vous avez à la fois ce même mécanisme-là et des gens qui avaient des choses à faire, finalement, de plus en plus lourdes. Et finalement, je suis remonté jusqu'à cet arrière-grand-père qui, lui, effectivement, est le symbole, effectivement, de ces Français, de ces millions de jeunes Français morts comme ça dans un conflit dont ils pouvaient avoir l'impression, voilà, que c'était pas forcément leur guerre, mais qu'ils sont allés quand même. Et donc, c'est cette introspection par rapport à mes propres enfants qui m'a mené finalement jusqu'à cet arrière-grand-père là, et ce désir finalement, comme j'ai toujours cru que la littérature pouvait beaucoup, de ressusciter ce personnage là en me disant, voilà, et s'il n'était pas mort en 1915, et s'il s'était engagé dans la police à Marseille après-guerre, que se serait-il passé? Et donc ça m'a permis, moi, pendant les 18 mois d'écriture de ce livre, de cheminer avec cet arrière-grand-père que j'ai jamais connu. Et je trouve que c'est aussi ça, voilà, la magie parfois
de la littérature. Mais que saviez-vous de lui?
Je savais des choses que m'avait raconté donc son fils, mon grand-père. En tout cas, j'ai jamais vu pleurer mon grand-père. Mon grand-père pleurait uniquement quand il sortait tous les deux mois. Il sortait la monstre que lui avait laissé son père. Il sortait l'acte de l'annonce de décès voilà, de ce père qu'il avait perdu à l'âge de 5 ans. Et moi, pour moi, voir pleurer mon grand-père, qui était pour moi un roc, bah, c'était voilà, il y avait quelque chose finalement dans mon ascendance. C'était un peu non pas le talon d'Achille, mais c'était voilà, quelque chose de brisé dans cette ascendance là. Et finalement, de faire aujourd'hui ce roman avec la photo de mon arrière-grand-père, de voir que le roman est lu, de voir que le roman est lu, y compris par voilà, des personnes jeunes qui lisent peu ou pas, bah oui, c'est un peu une victoire. Alors, une victoire de quoi, je sais pas trop. En tout cas, une victoire d'un des pouvoirs pour moi de l'écriture.
Et vous revenez sur cette guerre avec des phrases qui sont assez fortes aussi quand même, parce que vous dites finalement cette guerre, elle a généré des monstres en sommeil.
Oui.
C'est une guerre qu'après-guerre, on a mis sous le tapis.
Oui.
En fait, les conséquences de ce qui s'était passé. Donc c'est une guerre qui a disparu de la société, comme ça, comme une bulle. Donc vous revenez quand même sur cet épisode.
Oui, parce que là, on est en 1928. 1928, c'est une période un petit peu particulière. C'est-à-dire, à la fois, ça fait 10 ans que le conflit est terminé. Donc, il est à la fois loin, même s'il est encore dans toutes les têtes. Mais, en tout cas, c'est pas qu'on le nie, mais c'est qu'on on l'héroïse un peu. Donc, on est une décennie après, et on n'est pas encore rentré ni dans la crise de 29 et ses conséquences, ni dans les années 30 qui vont être effectivement la montée des périls, le fascisme, le nazisme. Et donc pour moi, 1928, c'est la dernière année, quoi, de légèreté un peu avant que les choses se corsent. Et je suis d'ailleurs en train d'essayer d'écrire une suite à ce roman qui se passerait en 1936. Et 1936, c'est un peu ça aussi. C'est la dernière année, en fait, qui permet de faire semblant de croire qu'il ne va pas y avoir l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale.
Et cette histoire de déterminisme social, oui. Ça vous vient d'où? D'avoir été un professeur? D'avoir votre nom sur une école à Antibes?
Non, ça vient d'avoir étudié et lu les historiens, les sociologues, Bourdieu, puis de constater, voilà, de regarder la société telle qu'elle est, ouais.
Dans ce livre, moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'énigmes. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a une officielle, hein,
oui.
Qui est celle de l'enquête que vous nous proposez. Un enfant est enlevé dans une famille riche d'Américains sur la Côte d'Azur, vous l'avez dit. On est à Antibes, très bien. On a tout le décorum. Et ça fonctionne très très bien, je n'y reviens pas. La presse le dit suffisamment. Mais je trouve qu'il y en a d'autres. D'abord, il y a une première énigme sur l'écriture. Et
oui.
Ce n'est pas la première fois.
Oui.
Que vous nous invitez à réfléchir à ce qui se passe dans la tête d'un écrivain.
Là, on suit effectivement Agatha Harding, bon, qui est un clone d'Agatha Christie. Une Agatha Christie, bah, finalement jeune, pleine de vie, pleine de dynamisme, éloignée de l'Agatha Christie qu'on présentait, voilà, avec sa tasse de thé. À la fin de sa vie, et en lisant plusieurs biographies de Christie, notamment celle de François Rivière, enfin il en écrit deux, mais pour moi c'est l'un des spécialistes les plus justes. On voit bien qu'il y a eu cette Agatha Christie très jeune, intéressée par les garçons, par les sorties, un peu naïve aussi.
Très pétillante, hein.
Oui, oui, voilà. Et j'ai voulu garder ça, voilà. J'ai voulu reprendre ce dynamisme-là, qui n'est pas forcément celui qu'on attache à cette femme. Et elle est présentée, c'est aussi un livre, effectivement, sur les étiquettes, en fait. Elle est présentée comme la reine du crime, assez vite, hein, dans sa vie. Et là, dans mon personnage, y croit. Et c'est un très grand danger de croire en fait aux étiquettes qu'on nous accole. Bien souvent, on peut avoir qu'une seule étiquette. Et moi, où que j'aille, je suis, on me présente, ah oui, voilà, vous êtes le romancier préféré des Français, vous êtes l'auteur le plus vendu. Bon, voilà, en gros, on me présente, voilà, littérature populaire, on va être poli avec moi, c'est bien, vous faites lire les gens. On va rarement plus loin. C'est l'étiquette que j'ai. Quel que soit le roman que je puisse écrire, on m'accordera cet intérêt poli. Très bien. Je n'en souffre pas parce que j'occupe aujourd'hui la place que je rêvais d'occuper quand j'avais 15 ans, que je lisais Stephen King, Pagnol, Barjavel, qui est celui de pouvoir passer mes journées à écrire et d'avoir des lecteurs qui attendent mes histoires. Mais je sais très bien, j'ai cette étiquette-là qu'elle est collée. Simplement, j'y crois et je n'y crois pas. C'est-à-dire que mon costume de Guillaume Musso, l'écrivain, je ne le porte que 3 semaines par an, au moment de rencontre avec les lecteurs, de promotion, quand le roman sort. Et le reste du temps, je n'ai pas ce costume-là et je reviens à ma vie normale, qui est essentiellement d'être le père de mes enfants et le compagnon de ma compagne et le fils de ma mère et de mon père. Donc voilà, c'est mon vrai rôle, en fait. Il est davantage ça que cet écrivain populaire qu'on traite soit avec dédain, soit avec cet intérêt poli. Cette étiquette-là m'intéresse sans m'intéresser. Et ce roman parle aussi de ça.
Ah,
de
oui.
Cette femme, oui. Agatha Harding, qui, elle, va croire qu'elle est la reine. La reine d'un royaume,
oui.
La reine du crime. Et je vous remercie de l'avoir vue.
Moi, je vous remercie de l'avoir écrit. Votre roman est parfaitement réjouissant. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes heureux de faire du divertissement. Moi, je trouve que ça va plus loin que ça, parce que, comme je le disais, c'est un livre dans lequel il y a des tiroirs. Et donc, c'est réjouissant pour le lecteur de repérer vos petites clés. Les lecteurs vont s'amuser à trouver. Il y a 1000 détails dans ce livre où vous faites référence au travail de l'écrivain, c'est-à-dire aux questions qu'il va se poser et à la façon dont il va apparaître. Il y a une autre énigme, je trouve, qui jalonne votre livre, c'est celle de la référence culturelle. Alors celle-là, Guillaume Musso, vous n'allez pas m'enlever de la tête, que vous lisez sûrement beaucoup, mais vous regardez beaucoup de films.
Oui, vous avez quoi particulièrement
en tête ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Alors je vous explique. D'abord, je trouve que dans votre livre, d'une façon générale, vous êtes dans un univers que je trouve parfaitement accolé à celui de Woody Allen. C'est-à-dire qu'on s'amuse beaucoup. C'est très joyeux. En même temps, il y a quand même une intrigue. C'est très vivant. On n'est pas loin du théâtre, mais il y a quelque chose de très coloré. En plus, vous nous mettez dans un univers à Antibes où on a tout le décor qui va avec. Mais il y a quelque chose comme ça, de la petite pointe d'humour qu'on peut aller chercher, qui est très Woody Allen. Je me trompe ?
Alors oui, c'est un roman plutôt joyeux. Et c'est un roman, alors oui, la référence à Allen, ok, c'est un roman en tout cas avec des images, du mouvement. L'autre référence de mon écriture, c'est Hitchcock. Alors pour le suspense,
ah
oui.
Ben ça.
Et aussi pour, vous savez, Hitchcock disait, je veux filmer mes personnages à hauteur d'homme. Et c'est vrai que sa caméra est souvent effectivement à hauteur d'homme. Et moi j'aime bien cette idée aussi d'écrire à hauteur d'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir l'impression, nous lecteurs, d'être vraiment au milieu de ces personnages, de faire corps avec eux, de bouger avec eux.
Mais il n'y a pas que ça. Pour Hitchcock, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, ce format est hybride, c'est-à-dire que comme Hitchcock, vous passez dans votre livre.
Oui, je fais une apparition.
Voilà, ce qui est quand même génial.
Dans un livre de 1910, qui se passe en 1928, mais c'est vrai qu'il y a un chapitre dans le roman qui est, oui, qui est effectivement une sorte de métafiction. Alors, dit comme ça, ça a l'air emmerdant, mais dans le roman...
Non, j'espère bien qu'on pique la curiosité en disant
voilà.
Ça.
Vous avez raison, lorsque vous parlez du côté hybride, en fait. Le roman commence, vous savez, un petit peu comme un roman à énigmes, typique des années 20, des années 30. Gaston Leroux, Christie, bien sûr, mais d'autres, dont ceux, effectivement, des écrivains du Detection Club, qui avaient mis ces fameuses règles à respecter lorsque vous écrivez un roman policier.
Qui sont dans votre livre.
Voilà. Donc ça, les 100 premières pages, c'est un hommage très clair à cette littérature du roman à énigmes. Ensuite, effectivement, vous avez un côté thriller historique, puis thriller psychologique, puis true crime, puisque la fameuse Agatha du roman, donc, qui est prise dans cette enquête, finalement, elle se dit « Mais je suis à la fois la suspecte et l'enquêtrice d'une enquête, et ça serait trop bête de ne pas en tirer une forme nouvelle d'écriture. » Et donc, j'imagine que cette femme se met en tête d'écrire, effectivement, le premier true crime, bien avant Truman Capote et De sang-froid. Et vous avez effectivement à la fin cette petite métafiction, ce côté livre dans le livre, avec l'apparition effectivement d'un auteur et de son fils aujourd'hui qui porte effectivement le même nom que moi.
Non, mais et puis pardon, excusez-moi, vous êtes très... Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, moi je vous le dis, vous êtes très inspiré hein, par le cinéma. Il y a des scènes d'Agatha Harding, puisque dans le livre, oui. Agatha Christie s'appelle oui. Agatha Harding, qui conduit une Bugatti oui. sur les remparts, en fait, voilà. Et là, on est en plein dans la main au collet.
Absolument. Bah ça, absolument. C'est une référence visuelle, c'est une photo, enfin, c'est une scène de la main au collet devant, effectivement, ce qu'on appelle le pont du diable à Aise. Et c'est un, absolument, c'est un clin d'œil. Vous êtes la première à l'avoir aussi. Merci.
Attendez, il n'y en a pas d'autres. Moi, je me suis beaucoup amusée avec votre livre. Oui. Parce que vous ne m'enlèverez pas de l'idée non plus que ce personnage de Vera dans votre livre, qui est cette comédienne
oui.
qui est paniquée parce qu'on passe au parlant,
oui.
eh ben c'est quand même Chantons sous la pluie, non ?
Oui, il y a de ça. Alors, il y a effectivement une génération comme ça de comédiens dans les années 20, très, très, très populaires par leur physique et dont la carrière vraiment s'est complètement écroulée en 4-5 ans au moment du parlant.
Et ce personnage, vous la décrivez, enfin, on a vraiment l'impression d'être devant cette actrice.
Oui, on est un peu, on est quand même en empathie voilà. avec elle. Et vous avez son amant, ce producteur qui a compris qu'en fait, voilà, la suite de sa carrière allait être compliquée et qui, malgré tout, à la fois essaye de l'aider, l'aime quand même.
Bah, et du coup, nous, on sourit en se disant ouais. « Mais c'est dingue, il y a Chantons sous la pluie. » Et bim, là, on arrive à Babylone, le film qui raconte...
Alors, je ne l'ai pas vu, mais bah. On met...
Effectivement, bah, écoutez, vous devriez le regarder, ouais. parce que c'est un peu votre livre.
D'accord. Ah bon ? Oui. Sur le personnage de bah, l'actrice ?
Oui, et puis ouais. d'abord, et puis sur cette ambiance du cinéma parlant qui arrive.
De Hollywood 1920
ouais. Exactement. Enfin, 1930, exactement. Ouais. Alors il y a ça, il y a aussi en filigrane, on a l'impression de voir des extraits de films sur l'affaire Lindbergh, l'enlèvement
oui.
du fils de Charles Lindbergh.
Oui, ça, effectivement, depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'ai lu le crime de l'Orient Express, je suis fasciné par cette affaire-là. En fait, Agatha Christie s'est inspirée d'un fait divers célèbre qui est en fait le premier fait divers mondial. Alors, ça se passe en 1932, c'est l'enlèvement du fils de Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, cet aviateur très célèbre, qui est un héros à l'époque, qui a fait la première traversée transatlantique seul et qui est... qui commence à faire de la politique à l'époque, mais qui est vraiment le héros du début des années 30. Et son fils est enlevé, et l'enlèvement de son fils, pendant 2 ans, va occuper les médias du monde entier. Et les progrès techniques de l'époque, en fait, permettent aux journaux de suivre quasiment en temps réel l'enquête d'abord, puis le procès du criminel supposé. Donc comme ça en temps réel, et c'est une affaire, un enlèvement d'enfants qui nous parle tous,
bien sûr.
Voilà, et Agatha Christie va s'inspirer effectivement de cette affaire pour le fameux crime de l'Orient Express. Et c'est oui, ça a été aussi donc bon, c'est une affaire que je connais très très bien puisque je lis dessus depuis 40 ans, et c'était l'une des sources multiples, effectivement, d'inspiration pour ce livre. En fait, les romans, moi, mes romans ont une maturation très très longue. En fait, ils sont à la fois tout fait farine dans mon moulin, mais c'est comme le vin, quoi. Il faut que tout ça décante avant de se mettre à l'écriture. Murakami parle très bien de ça. Il dit voilà, écrire un roman finalement, c'est pas très compliqué si vous y consacrez du temps. Tout le monde presque en fait arrive à écrire un roman et même deux. Ce qui est plus dur, c'est écrire 10 romans, 15 romans, 20 romans. Si vous écrivez 20 romans, ça veut dire que l'écriture est une seconde nature. L'écriture fait partie de vous. Ça veut dire que vous pouvez plus mettre, vous pouvez plus appuyer sur le bouton off. Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, vous avez toujours une petite voix derrière qui essaye de dire mais qu'est-ce que je pourrais finalement prendre pour les mettre dans mon livre. Alors pour les mettre dans mon livre, comment? D'abord, il faut les mettre dans votre esprit. Et Murakami parle très bien de ça. Il dit voilà, on a dans notre cerveau, les romanciers, des milliers de tiroirs dans lesquels on va aller stocker une réplique, une remarque, une description, une odeur, un paysage, un embryon d'idées. Et au moment adéquat, à un moment, voilà, vous allez aller piocher dans cette mémoire, qui est une mémoire visuelle, olfactive, voilà, vous allez aller piocher des éléments. Et tout ça va finir à un moment par s'agréger et va nourrir ce qui va devenir un livre.
Alors, avant de vous poser une question sur ce que vous venez de dire, je finis mon histoire de cinéma. Vous êtes un fan de cinéma ou pas?
Oui, enfin oui, sans plus, mais disons oui, ça.
Mais sûrement un peu éponge aussi.
À la construction, à côté, oui, des romans, des séries, du théâtre, de l'opéra, de la peinture.
Oui, c'est ça. Mais il y a la peinture, il en est question aussi dans ce livre.
Oui,
on croise Magritte, Picasso, l'Art nouveau. Donc il y a aussi quand même parce que. Vous ne vous contentez pas de nous mettre là dans cette année 1928.
Oui.
Vous nous donnez tout le décorum.
Oui. Alors, je fais ça. J'essaye de le faire de façon subtile pour pas qu'on ait l'impression, vous savez, de ces romans où on a l'impression que l'auteur sort ses fiches. Alors voilà, la fiche peinture, la fiche. Voilà. J'essaye que tout ça soit fait de façon un petit peu pointilliste. Et que ça serve toujours l'histoire, ou du moins la caractérisation des personnages, mais qu'on absorbe ça, enfin qu'on devienne plus intelligent, mais sans la souffrance de se dire oh là là, voilà, c'est pas un pensum.
Oui, oui. Non, mais en fait, ça se passe exactement comme ça, vous y arrivez très très bien. Il se trouve que moi, mon métier, c'est d'aller vous chercher dans
absolument.
Les coins. Mais sinon, les autres, ça se passe bien. Il y a ce décorum-là, puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que on est au moment même où, à la fois pour votre enquête, mais aussi pour tout le monde, c'est un peu la révolution. C'est-à-dire que là, le téléphone arrive, les transports changent. Il y a, on peut faire des enquêtes avec de la graphologie, des psychanalyses. Alors, c'est bien pour votre enquête, mais on découvre tout d'un coup que c'est une petite révolution. Les femmes ont des vêtements qui sont un peu moins recouvrants. Bon, elles sont quand même pas non plus. Enfin, elles peuvent pas toujours être sur le terrain pour enquêter. On n'y est pas, mais en fait, vous nous racontez le début du XXe siècle en filigrane dans ce livre.
Oui, c'est vrai que en fait, je n'ai pas arrêté de me dire à chaque fois que j'étais plongé dans l'écriture du livre, ah oui, si loin, si proche.
C'est ça.
Voilà, c'est à la fois un siècle, mais c'est pas le Moyen Âge, et donc pendant longtemps, je me suis dit, mais je vais pas être capable en fait d'écrire un roman. Enfin, je suis pas du tout amateur de romans historiques. C'est pas, enfin, jamais dans ce que j'imaginais écrire un jour, il y avait un roman qui se passerait uniquement. Et puis le déclic, ça a été grand amateur de Georges Simenon, et soit en lisant des Maigret, soit en lisant des romans durs. Ben voilà, les premiers Maigret se passent en 1929, 30, 31, et vous n'avez pas du tout l'impression de lire un livre historique, un roman historique en lisant
bien sûr
Maigret. Et donc, ça a été aussi l'une des références de me dire, mais non, voilà, écris un roman qui se passe il y a 100 ans, mais écris-le comme si l'époque te paraissait normale pour toi, comme si toi, tu vivais à cette époque-là, c'est-à-dire de façon, distille des informations. C'est un moment, effectivement, charnière sur plein de choses, les techniques, les valeurs, mais fait en sorte que tout ça participe vraiment à l'histoire, au dynamisme de l'histoire.
Oui, par exemple, ce qui est rigolo aussi, c'est que ces fameux Livingstone, là, donc c'est cette famille américaine qui va donc avoir un de ses enfants qui est enlevé. Vous dites qu'ils sont progressistes.
Oui.
Et que donc, du coup, les enfants peuvent dîner avec eux à table.
Ça, ils existent, hein. Mais non, mais c'est... Alors, cette famille est inspirée d'un couple existants, les Murphy. Les Murphy, ils sont connus parce que ça a été les premiers, c'était la première famille américaine à venir sur la Côte d'Azur en été. Puisque auparavant, pendant longtemps, la Côte d'Azur était en fait un lieu touristique réservé aux hivernants et qu'on trouvait que l'été, il faisait beaucoup trop chaud. Donc en fait, tous les hôtels fermaient en juillet-août. Et les riches familles anglaises, américaines, allaient passer en fait l'été en Normandie. Et les Livingstone, à un moment, on en marre de se prendre des seaux d'eau sur la tête en plein mois de juillet à Honfleur, et donc décident finalement d'aller dans le sud. Ils arrivent à Antibes, dans le plus bel hôtel d'Antibes, sauf que l'hôtel est fermé. Et ils arrivent à convaincre le patron de l'hôtel de l'époque d'ouvrir une aile de l'hôtel, et il leur dit, mais nous, on va faire venir nos amis, on va faire venir...
Ça, c'est vrai, ça.
Ça, c'est vrai. Les Murphy étaient comme ça. Ils ont fait venir Picasso, ils ont fait venir Fitzgerald, ils ont fait venir...
Oui, c'est le début, tout d'un coup, d'une ambiance culturelle.
Et en quelques années, en 5 ans, cet endroit passe d'un endroit complètement délaissé par les touristes l'été, à ce qui va devenir, on dirait aujourd'hui, voilà, le spot à la mode. Et en 28, tous les hôtels finalement ouvrent et les plages, parce que c'est-à-dire qu'avant, les plages étaient pleines d'algues, étaient pleines, voilà, les gens locaux ne se baignaient pas, en tout cas pas sur ces plages-là. Et les Murphy, eux, vont être les premiers à nettoyer les plages, à faire venir comme ça d'autres familles. Et ce couple-là est celui qui a inspiré l'écriture de Tendre et la nuit, puisque ils étaient très proches, effectivement, de Zelda et de Francis Scott Fitzgerald.
Mais vous avez quel souvenir d'Antibes l'été ?
Moi, c'est l'Antibes des années 80, donc c'est le tourisme de masse, c'est le bétonnage, et donc c'est aussi pour finalement, il y a une tristesse aussi de voir ces paysages aujourd'hui être à ce point-là détériorés par le bétonnage, et un plaisir mentalement de se projeter à cette époque-là où finalement c'était des campagnes, c'était et de se dire que cet Antibes-là a vraiment existé, et encore une fois c'est loin et c'est proche, vous avez plein de gens qui vous racontent encore alors certes c'est pas 1928 mais c'est 40 et c'est important, ça aussi, d'avoir ces témoignages-là et de les rendre actuels à travers un roman.
Alors, il est très élégant, ce livre aussi, à travers votre écriture et puis à travers ces personnages que vous habillez. Alors, évidemment, on est en 1928, alors, mais ils sont très chics. Il y a quelque chose de très élégant dans votre façon de raconter les chapeaux, les robes, les voitures, l'ambiance que vous choisissez. Et ça donne à votre livre quand même une couleur d'une grande élégance.
Merci aussi d'avoir remarqué. Oui, alors comment je procède pour faire ça? D'abord, une documentation énorme. Je lis beaucoup, j'absorbe, je me fais une image, je regarde des photos. Et ensuite, voilà, je prends, je mets tout de côté. Je laisse un peu naturel. Je me dis, voilà, de quoi tu te souviens? Quelles sont les images? Voilà, quel est le film qui te reste de tout ce que tu as pu lire? Et essaye de le retranscrire avec des mots qui soient pas des mots techniques, qui soient pas des mots. Enfin, vous voyez, c'est ce
que... Les émotions. Hein.
Voilà, qui sont de l'image, des émotions, du mouvement. Voilà, un drapé, un...
Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, vous avez quand même une âme de cinéaste.
Oui, oui, c'est vrai.
Parce que c'est l'image qui fonctionne.
Oui, mais c'est aussi de la peinture. C'est, prendre les petits détails saillants. Effectivement, on n'est plus... on ne peut plus aujourd'hui faire page de description où on se fait uniquement plaisir, où on se regarde écrire. Il faut que ça crée des images qui peuvent être belles élégante, hein, voilà aussi, mais il faut essayer de le faire en piochant comme ça, à la manière d'un peintre, des petits détails signifiants.
Ouais, votre livre, il donne envie, en fait, on s'a, enfin,
oui,
de s'arrêter, de chercher
un peu,
sur internet,
d'aller voir, dire, oui,
oh, c'est joli,
oui,
ça, mais j'aimerais très bien, moi, cette fois.
Voilà, et il y a aussi un autre. Il y avait un autre challenge dans l'écriture de ce livre, c'est de se dire, voilà, ne pas utiliser de mots ou d'expressions qui n'existaient pas à l'époque.
Okay.
Donc il faut vérifier quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est assez contre-intuitif. Il y a plein de choses où on a l'impression que oui, on disait ça, on parlait comme ça, et absolument pas, et l'inverse aussi. Et donc tout ça, tout ce parler... finalement, donne un côté très légèrement désuet. Enfin, pour moi, c'est un...
Oui, oui.
C'est quelque chose de positif qui retranscrit, sans qu'on en ait l'impression, cette époque-là. Et encore une fois, le faire de façon subtile et très fluide quand même. Parce que moi, la fluidité de l'écriture et donc de la lecture, ça a toujours été une sorte de politesse envers le lecteur, et que moi, lorsqu'on me dit qu'on entre dans mes romans comme on entre dans un bon film, pour revenir
oui.
au cinéma, c'est effectivement un compliment.
Oui, ça, de ce côté-là, oui. On est vraiment tous oui. certains que vos livres se dévorent. Mais dans cette façon que vous avez de travailler, finalement, vous auriez pu aussi être un commissaire de police.
Oui,
parce que
alors
c'est de l'enquête, tout ça.
Ben oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais écrire, enfin. À partir du moment où vous écrivez, moi je suis très ami avec l'un des maîtres du thriller en France, qui est Jean-Christophe Granger, et qui est une source qui est un modèle. Je vous explique en deux mots pourquoi.
Mais vous Granger, pouvez même en faire en trois mots, allez-y.
Granger écrit depuis 35 ans. Il continue à se lever tous les matins à 4h30. Il se fait un thermos de thé et il travaille la journée entière en faisant des états de façon très, très, très. Consciencieuse, et je sais que c'est pas du bullshit parce que je reçois parfois certains de ses mails à 4h15, donc au moment où il se lève. Donc, et c'est un modèle dans le sens aussi où vous pouvez. Je vois quelqu'un qui garde du plaisir à écrire, qui écrit des romans qui sont toujours aussi bons, et c'est cette idée finalement de tenir sur la longueur. On revient à Murakami, écrire 20 livres, c'est quoi en écrire 25, 30, mais pourquoi enfin, et avoir comme ça des modèles de gens qui font ça et qui restent très consciencieux par rapport à leur métier, qui est un métier de création, certes, mais artisanal aussi. Et je sais plus du tout pourquoi je vous
demandais si vous n'étiez pas un peu
ça.
Commissaire dans la
oui oui voilà et Granger dit toujours voilà écrire un thriller, écrire un roman policier, c'est d'abord faire une enquête sur soi-même. Et quand vous écrivez, c'est vrai que vous enquêtez quelque part sur vous, et bien souvent en fait vous ne comprenez le sens véritable, enfin le pourquoi vous avez écrit ce livre, que des années après.
Donc là, si je vous demande ce que vous avez compris de vous, c'est pas possible.
Non, parce que alors là, il y a le côté ascendance par rapport effectivement au grand-père, mais c'est beaucoup trop simple en fait. Bien souvent, il y a une motivation cachée dans chaque livre dont vous trouvez effectivement la solution plusieurs années après. Mais c'est des trucs assez psychanalytique, le, je sais pas, le désir d'enfant, le non-désir d'enfant, le la paternité, le un truc dans son couple, dans voilà. Et souvent, voilà, il y a cette révélation. Je me dis, mais en fait, oui, ce livre, et une fois que vous avez la révélation, c'est clair comme venu au milieu de la figure, quoi. Donc, c'est assez et le côté enquête, oui, il est. Il y a un côté très très visible et évident dans ça, mais il y a aussi effectivement ce côté enquête sur soi, et parfois vous trouvez jamais vraiment le pourquoi vous avez écrit ça.
C'est votre 22e livre, donc je peux quand même vous poser la question sur les premiers, sur ce que vous avez compris sur les premiers. Non, mais bien me donner un truc quand même.
Oui, non, mais je vous ai dit, je sais pas, il y a sur pendant longtemps ça a été ça, c'est le fait de la peur d'avoir des enfants, ou de pourquoi, enfin le cette idée que la vie étant fragile, ok, on peut mourir, on peut traverser la rue, mourir à tout moment, donc on a une vie fragile. À partir de là, comment vivre? Ok, pendant longtemps, moi, ma réponse a été vie avec des principes assez stoïciens, voilà, et on peut voilà, donc on arrive à vivre avec ça, on se construit, voilà, une sorte d'armure. On est à peu près bien, voilà, on sait à peu près mener sa barque. Et quand les enfants arrivent, là, d'un seul coup, alors vous avez passé votre vie à vous construire une armure, ben vous avez finalement un talon d'Achille immense, parce que on peut vous atteindre à travers eux, et à partir de là, enfin c'est banal, hein, ce que je dis, mais à partir de là, votre vie devient, bah oui, comment protéger en fait vos enfants, et cette relation ambiguë entre le fait de vouloir des enfants ou ne pas en vouloir, et ne pas en vouloir pour ne pas devenir faible, en fait, parce qu'une fois que voilà que vous les avez, pendant votre vie entière, vous allez être faible, parce que la première chose que vous allez faire quand vous allez sortir d'ici, c'est voir si on vous a pas envoyé un message disant « Ah, mais votre fils a eu un accident ». Voilà, donc il y a cette tension-là, assez forte, que j'ai développée pendant longtemps sans le savoir dans mes premiers livres.
D'accord.
Et j'ai découvert ça, effectivement, des années après.
Je comprends. Parce que cette histoire de rapport à la réalité, vous l'abordez dans votre livre. Vous faites dire à ce personnage d'écrivain, donc Agatha Harding, que la vérité est bien moins belle que la légende, par exemple.
Oui.
Ça, c'est une phrase de votre livre. Donc, vous dites aussi qu'elle écrit parce que ce qui l'intéresse, c'est la zone grise. Bon, ça, on a bien compris que c'est vous, hein.
Oui.
Mais donc, et puis vous dites aussi que écrire, c'est le meilleur moyen pour fuir la réalité.
Oui, ça a toujours été ça. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours. Et ce qui est assez étrange, c'est que moi, j'ai eu une enfance assez douce, privilégiée, avec des parents aimants, mais toujours cette idée, finalement, que la vie ne suffisait pas et qu'il fallait autre chose. Il fallait, il fallait une couche supplémentaire à la vie. C'est la fameuse phrase là, de Vargas Llosa : la littérature existe parce que la vie ne suffit pas. Et pourquoi au départ il y a eu cet amour des livres, parce que cet amour des livres au départ, c'était la plongée. J'avais l'impression en fait de pouvoir pénétrer par effraction dans les pensées, dans la psyché de personnes comme ça qui m'étaient inconnues. Enfin, vous lisez Crime et Châtiment, vous êtes dans la psyché d'un assassin. Jamais à 14-15 ans, voilà, vous pouvez être dans ça autrement que dans ce livre. Enfin, c'est un truc que les films amènent des émotions à travers les images, la musique, mais les films n'amènent pas cette profondeur là, ce tourment là. On en revient à ce que disait Umberto Eco : celui qui ne lit pas vit qu'une vie, celui qui lit vie 500 ou 1000 vies. Alors, c'est pas des vraies vies, mais c'est des bribes de vie, mais des bribes de vie puissantes. Et cette idée d'être finalement dans la vie secrète de personnages qui souvent sont en plus des personnages tourmentés, limite, Tout ça, oui, était l'objet d'une fascination pour l'adolescent que j'étais. Et c'était aussi, oui, ce moyen vraiment, oui, de fuir la réalité. Et ensuite, c'est l'écriture qui m'a fait ça. Et en fait, c'est beaucoup moins dangereux que la drogue. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, je vis de ça. Et c'est un aboutissement de se dire que finalement, cette addiction-là, parce que forcément, c'en est une, quand vous avez le besoin de vous enfermer 8 heures par jour pour finalement être dans votre rêverie, et qu'en plus, ça vous fait vivre. Oui, forcément.
Il y a pas de raison d'arrêter.
Mais voilà.
Bien sûr. Mais je suis assez fascinée parce que bon, c'est pas la première fois que je vous entends. J'ai regardé pas mal de vos interviews avant qu'on se rencontre ce soir. Vous êtes capable de citer beaucoup d'auteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de ces photographies que vous avez. Vous prenez pas de notes? Vous avez un cerveau qui retient tout?
Oh non, non. Ben, je retiens les choses à la fois que je comprends et qui ont un sens pour moi.
Donc, du coup, vous avez une mémoire incroyable.
Pas vraiment, en fait.
Non, vous trouvez que non?
Je sais pas.
Vous trouvez que non? Non, vous n'avez pas d'avis sur votre mémoire?
Non.
Écoutez, comme ça, c'est dit. Ouais. Vous avez un avis, en revanche, sur la presse. Et dans votre livre, on voit bien que vous avez un avis sur la presse.
On est dans les années 20. Les années 20, c'est pour moi les pires années concernant l'histoire de la presse. On a une presse qui est très 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 cruel, avec très peu d'éthique, une presse qui est à la fois financée pour une certaine presse par les milieux affairistes, une autre presse par des puissances étrangères, et on a une presse qui est jamais sans arrière-pensée, qui est un pouvoir, mais qui est un pouvoir avec des objectifs pas très avouables, et qui est une presse qui n'hésite pas à inventer et à aller jusqu'au bout, et notamment dans l'affaire Lindbergh. La presse est tellement... Dans l'affaire Lindbergh, il y a une jeune femme, une femme de ménage, en fait, qui travaille pour les Lindbergh, et qui va finir par se suicider, tellement la presse raconte des horreurs sur elle. Elle est complètement innocente, mais elle a eu le seul tort pour la presse de l'époque. Elle est sortie la veille, elle a bu avec un homme, et elle se souvient plus très bien, en fait, de qui était cet homme, de ce qu'elle a fait. Donc forcément, elle a un peu honte de ça, et la presse lui renvoie finalement l'image qu'elle est une femme de petite vertu. Et à un moment, tout ça devient tellement insupportable qu'elle préfère finalement se tuer le jour où elle doit être réinterrogée par les policiers. Donc oui, c'est cette vision-là de la presse de l'époque.
Est-ce que c'est un livre sur la vulnérabilité?
Tous mes romans parlent de ça, oui. Je pense que... À la source de chaque histoire, de l'écriture, il y a ça, il y a la faille, il y a ce qui nous rend faible, ce dont on a peur. Donc oui, mais c'est banal, oui.
Bah, c'est pas si banal que ça, parce qu'en fait, c'est sous couvert d'enquête. Quand même, on voit bien que ce que vous aimez, c'est les fêlures des gens, et puis la façon dont ils essayent de nager dans ce réel.
Oui, toujours pareil, c'est cette idée d'homme ordinaire qui va se retrouver, effectivement, Simon disait, mon héros est un homme de la rue, mais à qui il va arriver, qui va aller au bout de lui-même, c'est-à-dire qu'on va mettre finalement au bord du précipice pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Oui,
il faut quand même avoir une capacité de grande empathie. Alors,
ça, c'est naturel. Je pense que oui, c'est mais la lecture vous amène aussi cette empathie là. L'empathie, elle vous vient, alors certes, de l'éducation, mais elle vous vient aussi, effectivement. Moi, j'ai beaucoup lu, et c'est la lecture vous force à vous projeter, à vous mettre à la place de l'autre. Et vous apercevez que dans la vie, c'est cette empathie là, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, elle est souvent elle vous amène beaucoup, permet de désamorcer des conflits, très utile dans le couple aussi, dans les relations de couple, de toujours se dire à un moment quand ça va pas, bon, attends, mets-toi vraiment à, voilà, mets-toi un moment, mais faut y aller vraiment, faut se mettre vraiment enfin cette et cette empathie là oui, elle est essentielle pour essayer, enfin lorsqu'on écrit, en se disant tout le monde a ses raisons. Voilà, tous les personnages, même les plus négatifs, faire l'effort de se mettre à sa place, parce qu'en fait, dans la vie, même ceux qui agissent mal ou de façon
discutable
moralement ou pas, mais finalement, tout le monde a des raisons d'agir comme ils le font. Donc, cette capacité de projection dans l'autre, oui, c'est aussi l'essence de l'écriture.
Vous êtes en train de me dire qu'en fait, votre capacité à être empathique aussi sur vos personnages ou en lecteur que vous êtes, a nourri votre capacité à être empathique tout court. C'est-à-dire qu'être un écrivain peut vous aider à devenir meilleur.
Je sais pas, meilleur, parce que est-ce que être empathique, c'est être meilleur, peut-être. Moi, je pense que oui, mais c'est discutable aussi. On peut être très heureux sans être
empathique.
On est tourné
sur soi-même. Voilà. Je suis pas sûr. Pas longtemps, en tout cas, peut-être.
J'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, effectivement, en fait, l'écriture, quand vous écrivez, il y a ce côté aussi metteur en scène. C'est-à-dire, c'est comme quand j'écris une scène, je mets à la place des personnages, je me récite les dialogues, voir est-ce que ça sonne bien, est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a des effets, est-ce que je me fais rire, et ça oui, ça c'est vraiment quand j'écris ces scènes-là, je passe de l'un à l'autre, c'est assez.
Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez cette étiquette dont vous parliez tout à l'heure,
oui,
que vous avez.
Oui.
Vous savez aussi, vous avez l'étiquette d'un type qui a la réputation d'être un chic type.
Je ne sais pas, bravo.
Vous savez
au
pas
moins, alors, au moins une bonne
dis,
chose.
Oui. Dites-vous que vous êtes extrêmement sympathique.
Ah bon, bah écoutez, au moins ça.
Oui.
J'écris mal, mais au moins je suis sympa. C'est... Mais vous savez ce truc de, au moins il est sympa, c'est un faux compliment en fait. Non, je sais, mais
donc ça pourrait vous énerver.
Non, alors
il n'y a rien qui vous énerve.
J'ai 51 ans, donc
il n'y a rien qui vous énerve. Mais pourquoi c'est un faux compliment?
Bah non, mais parce que c'est un compliment condescendant. C'est de la littérature populaire. Voilà, quand vous dites ça, même quand vous dites attention, oui, c'est de la littérature populaire, mais de qualité. Mais même ça, on commençait par c'est de la littérature populaire, il y a toujours une suspicion. Moi, j'en suis très heureux. Hein. C'est la littérature que j'aime, tout ça. Et je suis pas là pour me lancer dans un débat avec ça. J'ai assez donné, mais oui,
y a mais ça. Soyons clairs, en fait.
Bah, oui, et voilà le.
Oui, enfin, moi personnellement, oui, qui interviewe des auteurs, moi j'aime bien quand je rencontre des chic types, mais bon, voilà,
écoutez,
plus agréable,
merci.
On va dire.
C'est
juste plus agréable. Hein. Et ce sera ma dernière question, Guillaume Musso. Évidemment, comme d'habitude et comme toujours, c'est un roman d'amour.
Oui, alors le sentiment sous toutes ses formes, l'amour sous toutes ses formes, oui, ben là, je ne vois pas sur quoi d'autre écrire, là. Pour le coup, vu que c'est ce qui régente notre vie, que c'est ce qui nous maintient debout, enfin l'amour ou le manque d'amour ou la quête d'amour, finalement la vie se résume quand même beaucoup à ça. Mais qu'on en soit conscient ou pas, qu'on l'admette ou pas, qu'on le dise ou pas, oui, là encore, bon, c'est banal, mais en tout cas, bien sûr que c'est le matériau premier, effectivement, d'une histoire.
Ah si, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi il y a des photographies et des archives dans votre livre?
C'était quelque chose que je trouvais ludique. Moi, j'aime bien ça quand il y a ça dans les livres, même si, là encore, on peut dire que ça fait pas très sérieux, la liste des personnages au début. J'aimais, moi, ce côté cluedo, ludique. J'aime bien ce... J'ai toujours cru que la littérature était un jeu qui se jouait à deux. Et là, il y a vraiment ce côté quand vous ouvrez le livre, que vous avez la liste des personnages, que vous avez la carte. Ça vous renvoie, en tout cas, moi, ça me renvoie à une part de jeu.
Oui, et d'enfance.
Voilà, et aussi
et de réjouissance.
Et de se dire, ah ben tiens, on va passer un bon moment, on va jouer. Ouais. Parce que je vais
Absolument. Découvrir
qui a tué le colonel Moutarde avec la corde dans la bibliothèque.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup.
Merci, un plaisir. Merci.